Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est sur RDWA 107.5 ou sur rdwa.fr. Vous écoutez l'interview du jour. Aujourd'hui, je suis en studio avec Frizou et Monique. Bonjour.
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 On va parler d'un texte de loi et d'une série d'événements organisés par une caravane d'informations autour de ce texte de loi dont on va mesurer l'importance. Donc, c'est une déclaration de l'ONU qui s'appelle la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans, paysannes et autres personnes travaillant dans les zones rurales. Donc on va pouvoir un peu parler de tout ça. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez me dire en quoi ce texte est important et essayer de le présenter le plus globalement possible ?
D'accord, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir à Radio DIWA. Donc, ce texte voté par l'Assemblée générale de l'ONU le 17 décembre 2018, en fait, est le résultat et représente une très grande victoire pour le monde paysan mondial. Il est le résultat de 17 années de travail, de négociations et de plaidoyer à la Commission des droits humains de Genève, de la part des paysans et des ONG qui ont assisté les paysans, parce que c'est eux-mêmes qui sont venus travailler, négocier à l'ONU des quatre coins du monde pendant 17 années. Donc ça a été très long parce que justement il y a des victoires juridiques et politiques extrêmement importantes dans ce texte. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ans déjà dans une petite association de solidarité internationale où on avait pris connaissance de ce document, on a décidé de proposer à la Confédération paysanne, aux amis de la Conf et à beaucoup d'autres partenaires de faire un travail de diffusion, d'information sur ce document pour qu'on puisse l'utiliser en France. C'est une déclaration. Donc, une déclaration, ce n'est pas une convention. Une convention, c'est contraignant. Une déclaration, ce n'est pas contraignant. Donc, certains peuvent penser que le texte, il a moins de force. En fait, c'est moins évident que ça, le clivage entre convention et déclaration. L'avantage d'une déclaration, c'est que on va pouvoir aller plus loin. Puisque ce n'est pas contraignant, les États signataires vont accepter plus de contenu, d'un contenu plus engageant, en se disant derrière, on ne sera pas obligé de l'appliquer, enfin, ou on ne sera pas contrôlé sur l'application. Donc, en fait, l'avantage, c'est que ça va quand même beaucoup plus loin qu'en général une convention. Après, il y a des conventions qui sont pas non plus mises en œuvre par les États, hein, malgré que ça soit théoriquement obligatoire. Et puis, il faut savoir que dans une déclaration, il y a c'est pas que on prend des bonnes idées de principe et puis c'est tout. Hein, c'est dans la déclaration, c'est écrit textuellement que les États s'engagent à mettre en œuvre les droits qui sont indiqués dans la déclaration et ils ont une obligation qui se décompose en 3 volets, qui est de respecter les droits inscrits, de les protéger et de les réaliser. Mais ce qui fait que c'est quand même beaucoup.
Si je comprends bien, il n'y a pas de contraintes, voilà. Et du coup, l'État, à quel moment, enfin les États qui acceptent, du coup ratifient ce texte-là, à quel moment ils sont un peu contrôlés sur l'application ?
Alors déjà, c'est pas que les États qui ont voté pour qui ont des obligations. C'est tous. À partir du moment où le texte est voté par la majorité de l'Assemblée générale, il s'applique à tous les États, même ceux qui ont voté contre ou qui se sont abstenus. Ensuite, il y a dans ce texte plusieurs types de droits. Il y a des droits qu'on appelle droits progressifs, c'est-à-dire les droits qui sont dans la catégorie droits économiques, sociaux et culturels. Et ces droits-là, c'est des droits qui ne sont pas du jour au lendemain mis en œuvre. C'est petit à petit. Et les États ont l'obligation de faire un rapport tous les 3 ans à l'ONU sur l'état de mise en œuvre. Donc, toutes les catégories de droits de cette famille-là, droits sociaux, économiques et culturels, donc à partir de maintenant, ceux qui sont inscrits dans la Déclaration des droits des paysans, eh bien, l'État français devra faire. Donc, ça a été voté en 2018. Donc, 2021, on va pouvoir commencer à s'informer sur qu'est-ce qu'il a l'intention de dire sur la mise en œuvre de cette déclaration en France. Voilà. Donc, c'est un outil politique qui permet de faire des pressions, de justifier, de légitimer les luttes, de donner un statut aux paysans et à toutes les personnes qui sont concernées par cette déclaration, de leur donner un statut de droit, c'est-à-dire de sujet de droit, pour défendre, pour justifier, pour légitimer la revendication de mise en œuvre de certains droits qui ne sont pas effectifs en France.
Est-ce que vous pourriez nous dire peut-être un peu quels droits sont précisés dans cette déclaration? Qu'est-ce que ça englobe?
Alors, il y a deux familles de droits. D'ailleurs, c'est une des premières déclarations qui inclut deux types de droits, les droits individuels et les droits collectifs. D'habitude, dans ce genre de texte, c'est des droits individuels qui sont proclamés, c'est-à-dire les droits de l'enfant, les droits de la femme. Voilà. Et là, c'est un immense progrès, une grande victoire. Il y a des droits collectifs. Donc, les droits collectifs, c'est le droit à la terre et aux autres ressources naturelles. C'est le droit aux semences. C'est le droit à un revenu et à des moyens de subsistance décents. C'est le droit à l'alimentation et à la souveraineté alimentaire. Le droit aux ressources naturelles, à la biodiversité. Voilà. Donc, ça, c'est des droits qui s'appliquent à un groupe, pas à des individus et dont la mise en œuvre ne se fait pas personne par personne. Il y a 120 pays qui ont voté pour la déclaration, 58 qui se sont abstenus et 8 qui ont voté contre. Alors ceux qui ont voté contre, c'est les, entre guillemets, les pays extrémistes de l'agriculture industrialisée, agro-business, c'est les États-Unis.
Ah bon ?
C'est étonnant, hein ? Le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, Israël, l'Australie et je ne sais plus quel autre, mais voilà, le profil un peu des agricultures qu'on connaît. Ceux qui se sont abstenus, c'est très majoritairement l'Europe, sauf à l'exception de la Suisse et le Portugal qui ont voté pour, parce qu'il y a eu des gros plaidoyers citoyens, militants dans ces pays, pour infléchir le vote de l'État, de leur État. Donc la France s'est abstenue et quand on a cherché à savoir pourquoi, l'argumentaire, il y avait plusieurs arguments. Donc le premier argument, c'est de dire le mot paysan, c'est pas défini, c'est pas clair, on comprend pas. Personne qui travaille dans les zones rurales, c'est pas clair non plus. Donc du coup, on sait pas trop à qui s'applique cette déclaration. Et le deuxième, qui là touche un peu plus le fond, c'est les droits collectifs qui sont dans cette déclaration, ils sont contraires à certains droits chez nous, notamment le droit de propriété privée de la terre et le droit de propriété intellectuelle des semences et de tout ce qui est brevet sur le vivant. Voilà, donc là on touche au dur des problèmes et ça veut dire que du côté du droit de faire évoluer le droit à la terre, la France, au moment où ils ont voté, ils n'étaient pas vraiment pas pour et je ne pense pas que ça ait beaucoup changé depuis. Donc voilà l'explication du vote de la France.
Alors la grande question, c'est comment on pourrait faire évoluer cette position-là de la France et comment on organise une lutte pour justement faire valoir ce texte et essayer de faire une pression en fait sur le gouvernement français.
Moi, je dirais que en fait, c'est la raison pour laquelle un collectif s'est organisé pour faire ce qu'on appelle cette caravane des droits paysans, pour commencer à faire circuler l'information, à informer les paysans, les citoyens, les organisations, les élus. Et donc, on a commencé depuis juillet. C'est un peu l'étincelle, on va dire, cette caravane, pour allumer un projet d'une campagne en France pour l'application dans notre droit de cette déclaration, avec l'objectif que les élus, à tous les niveaux, municipaux, départementaux, régionaux et nationaux, se saisissent de ça et organisent la transcription. Alors, c'est un projet à moyen-long terme, mais il y a sans doute des choses sur lesquelles on peut gagner plus rapidement que d'autres. Et je pense que la Confédération paysanne, avec ses luttes, est déjà dans les luttes pour ses droits. Et donc, c'est un outil supplémentaire et pour le syndicalisme et pour les luttes citoyennes.
Oui, moi, je pense qu'on doit pouvoir arriver à faire de nouvelles choses en collectif. Et il faut effectivement que les élus prennent en main. Alors, je pense qu'il y a pas mal d'outils avec les plus, par exemple, au niveau des mairies. On arrête de construire des zones d'activité où il n'y a pas grand-chose qui se passe, sur des terres agricoles qui pourraient nourrir des gens, faire vivre des familles, voilà.
Si je peux vous poser une question, parce que du coup, c'est assez étonnant, ça me paraît assez étonnant que l'argument du gouvernement français soit qu'on ne comprend pas dans ce texte de qui il est vraiment mention, parce que j'ai lu l'introduction, et dans l'introduction, il y a une distinction assez claire qui est faite entre justement la paysannerie et les grosses exploitations agricoles. Du coup, moi, je voulais vous demander, pour vous, qu'est-ce que c'est la paysannerie et qu'est-ce qui fait que ce texte est très important pour protéger cette paysannerie ? De quoi est-ce qu'elle a besoin et peut-être par quoi elle est oppressée ?
Alors, c'est vrai que autant l'argument du gouvernement, du vote français, est un petit peu fallacieux parce qu'effectivement, il y a une définition. Autant, si on veut quantifier, il faut que ça soit dans chaque pays. Ce qu'on nous a expliqué quand on a eu des conférences là-dessus, c'est que c'est volontaire qu'on n'a pas dit c'est jusqu'à tant de production ou jusqu'à tant d'hectares, une exploitation paysanne. Parce que c'est très, très différent d'un bout à l'autre du monde. Et donc, c'est à chaque pays de définir de manière quantitative la définition de qu'est-ce que c'est qu'un paysan. Et puis, pareil pour les personnes qui travaillent dans le monde rural, il y a l'artisanat, l'agroalimentaire artisanal, mais jusqu'à combien d'employés, ça dépend des pays, ça dépend des situations. C'est vrai que chez nous, dans le Diwa, on peut dire que les personnes qui travaillent dans le monde rural, ça touche une partie plus qu'importante de la population. Je dirais que, en fait, on est tous concernés finalement, parce que il n'y a pas de grande industrie ici, ou de très grandes administrations qui diraient, ceux-là, ils ne sont pas concernés. En fait, tous ceux qui travaillent dans le monde rural, dans des exploitations petites et moyennes, dans des entreprises petites et moyennes, sont concernées, que ce soit le bois, que ce soit les coopératives viticoles, que ce soit les huiles essentielles, que ce soit Biodrome, donc c'est très très vaste. Et quelle était votre autre question ?
Pourquoi en fait ce texte s'oriente sur la paysannerie comme justement un groupe, un ensemble de personnes qui se trouvent donc oppressées par d'autres et notamment par le système de l'industrie, de l'agro-industrie et des grosses exploitations agricoles.
Donc en fait, il y a plusieurs éléments, mais il y a d'une part l'élément économique. qui est de dire que le système économique dominant non seulement n'investit pas dans la production agricole à petite échelle, comme le fait la paysannerie ou l'agriculture familiale, mais a carrément vocation à la détruire. C'est-à-dire que c'est ce qu'on peut dire le capitalisme, si on peut employer, si ce n'est pas considéré comme un gros mot, il a comme objectif de détruire l'agriculture paysanne et de transformer ça en grande agriculture intensive, productiviste, et voire même en production alimentaire totalement hors sol et industrielle. On sait que Xavier Niel, il vient d'ouvrir une école pour former les agriculteurs du futur. Donc Xavier Niel, dont on sait tous le lien très fort qu'il a avec l'agriculture.
Excusez-moi, mais je ne sais pas qui c'est.
Alors Xavier Niel, c'est le PDG de Free, le créateur de la société Free, qui a aussi créé une école de formation pour de start-up et qui finance des projets d'innovation technologique dans plusieurs secteurs.
Des fermes à 11 étages, parce que comme ça, on prend moins de terre, mais on s'élève vers le ciel.
Et donc, il a annoncé l'ouverture d'une école pour former les exploitants agricoles du futur avec les nouvelles technologies. Donc, c'est une école qui va avoir 2000 places par an, gratuite, donc financée par quelqu'un, probablement par les vendeurs de drones et de produits chimiques qui seront injectés dans ces exploitations. Et puis, par ailleurs, on voit bien qu'il y a, une recherche financée de manière très importante sur, par exemple, la viande, comment on appelle ça, la viande complètement artificielle.
Imprimée en imprimante 3D, presque.
Presque, donc dont le premier steak complètement artificiel a été créé à Singapour, je crois, il y a quelques mois. Et donc, il y a énormément de recherches pour investir sur une production alimentaire complètement en dehors de la nature.
Très liée à l'industrie, à la technologie.
Voilà.
En fait.
Et donc, il y a beaucoup de finances internationales qui est en train de s'investir sur soit l'accaparement des terres, soit sur la bourse, la spéculation en bourse sur le blé, soit sur la viande artificielle, soit sur toutes les nouvelles technologies d'une agriculture soi-disant innovante. Et tout ça menace la vraie agriculture, celle qui produit des vrais aliments de bonne qualité et sains pour la population. Et donc, le rapport de force, il est en effet difficile parce que c'est des grosses puissances. Et dans ce sens-là, l'agriculture paysanne est menacée. Et cette déclaration est un outil pour se défendre.
Et qu'est-ce qui découle, selon vous, de l'agriculture paysanne en termes d'organisation sociale? Qu'est-ce qu'elle permet? Enfin, tout à l'heure, Frisou, tu nous parlais un peu de solidarité ou en tout cas de collectif. Elle implique ça. Qu'est-ce qu'elle implique d'autre?
Mais moi, je pense que les paysans, c'est le dernier rempart d'enracinement dans cette société. C'est-à-dire que nous, on est encore les deux pieds dans la terre et on a cette relation avec la nature qu'on transforme parce qu'on y plante des choses ou on élève des animaux, etc. Mais en vue de nourrir les autres. Et donc, on a encore ce lien avec la nature que toute cette société est en train de détruire. Parce que quand on veut faire une ferme en hydroponie totale avec un tas de technologies où les gens vont être en fait assis dans un bureau à regarder des écrans pour voir la vitesse à laquelle poussent les tomates ou les poivrons, et à juste appuyer sur un bouton pour qu'il y ait de l'arrosage ou qu'il y ait du soleil ou... Voilà, ou même aller faire autre chose pendant que le logiciel gère tout ça, c'est sûr qu'on ne va pas Ouais, enfin, en tant que, on est encore que des animaux, quoi. Donc, il faut qu'on mange des choses qui arrivent de la terre et puis pas du 11e étage d'une ferme. Et je pense qu'on est le dernier rempart. On est les derniers à se battre pour que ça continue à exister. Donc voilà, si les gens pensent qu'avec juste leur portable et puis leur tomate hydroponique, ils vont bien vivre, c'est dommage pour eux. Mais en tout cas, on est un certain nombre à se dire que non, c'est pas possible, quoi.
Et puis on peut ajouter aussi que les paysans, de par leur activité, ont un rôle fondamental dans le maintien du paysage. Et que si la paysannerie disparaissait dans nos régions, on aurait
des pins.
Un ensauvagement et un embroussaillement de la montagne et de la nature. Les paysages, ça tombe pas du ciel, hein, c'est façonné, c'est vivant, c'est entretenu. Et donc, c'est un élément aussi important.
Ben oui.
Et j'imagine du coup que dans cette agriculture que, on va dire, que les puissantes nous prévoient, il pourrait ne plus y avoir de biodiversité, presque. L'utilisation qu'ils veulent avoir des terres, des terrains, pourrait se faire presque sans insectes, sans plantes diversifiées. Et c'est peut-être pour ça que dans ce texte, il y a justement un droit à la biodiversité, ou en tout cas avoir un environnement qui soit préservé et sain.
Alors il y a plusieurs droits qu'on peut mettre dans la famille des droits culturels à ce propos-là, parce que c'est les droits aux semences traditionnelles, les droits aux coutumes culinaires, à l'alimentation traditionnelle, c'est-à-dire que l'idée aussi, enfin c'est pas une idée, c'est un droit qui est défendu, qui est inscrit, c'est que dans la souveraineté alimentaire figure le droit à ne pas manger, à ne pas se faire imposer ce qu'on mange à l'autre bout du monde, ou à ne pas se faire imposer ce qui sort d'usine et qui a été inventé, mais le droit de pouvoir continuer à conserver ses traditions. Donc en fait, il y a aussi, d'ailleurs, les peuples indigènes sont nommés dans les personnes concernées par cette déclaration, et tous les savoirs ancestraux qui sont quand même très très menacés, ils peuvent être un peu plus préservés par l'application de ces droits. Donc, dont le droit donc aux plantes médicinales, aux traditions de soins par les plantes, etc.
Moi, ce que j'ai envie de dire et ce qui me fait rester optimiste, c'est que justement, avec ces histoires de semences, il y a eu une époque où les paysans n'avaient plus le droit de ressemer leur récolte, de même échanger avec leurs voisins des semences, tout ça à cause des brevets qui permettent à des gens de se faire des sous-sous sans pas faire grand-chose, sauf avoir fait des hybrides à un moment. Et c'était une sacrée bagarre et on est revenu dessus. Donc en fait, rien n'est irréversible. Si on en a envie, si on pense que c'est indispensable et si on pense que c'est primordial pour notre survie, eh ben je pense que ça vaut le coup. Et donc c'est des bagarres qui arrivent à un résultat qui nous permet, nous, de continuer à vivre comme ça. Donc, il n'y a pas de raison de lâcher la lutte.
Vous êtes plutôt optimiste ?
Je pense que c'est très important ce que dit Frizou, parce que parfois, on a l'impression que le rapport de force est très inégal, que les forces financières qui s'opposent à cette agriculture paysanne sont plus, très, très fortes. Mais je pense qu'il faut vraiment retenir que rien n'est irréversible. On peut inverser les tendances, et on le voit d'ailleurs, on le voit sur les semences, on le voit quand même un peu aussi sur les pesticides. Il y a quand même plus grand monde qui ose maintenant dire « mais si, les pesticides, c'est très bon pour tout le monde ». C'est dans l'opinion publique, je pense que le combat, il est... L'opinion publique, elle a changé un peu d'avis quand même sur
oui,
le sujet.
Oui, l'opinion publique.
Pas les producteurs de pesticides, mais l'opinion publique... Ben,
non, pas les producteurs qui utilisent encore des pesticides. Ouais.
C'est une évolution. Donc, rien n'est irréversible et c'est vrai que c'est des luttes qu'il faut mener.
Est-ce qu'à ce niveau-là, vous pensez qu'il y a des inégalités entre justement la France, où j'ai l'impression qu'on peut se permettre de faire valoir le bio et ailleurs ou d'autres territoires ou peut-être même d'autres territoires en France que la Drôme où il y a cette industrie agroalimentaire qui est très très puissante et très en place. Est-ce qu'il y a ces inégalités-là?
Alors le cœur du sujet hein, sur la déclaration, c'est les discriminations dont sont victimes les paysans et les personnes, c'est le cœur, c'est le point de départ. Vous savez que l'idée de cette déclaration, elle est née dans un syndicat de paysans en Indonésie, il y a 20 ans. Et donc, il y a plus de 20 ans. Et donc, les discriminations dont sont victimes les paysans dans le monde, elles sont énormes. Et dans les pays comme le Brésil, par exemple, elles sont encore plus fortes que chez nous. C'est-à-dire que... la faim dans le monde, ça concerne majoritairement des paysans. C'est-à-dire qu'ils produisent et ils ont faim. Donc, le sujet des discriminations, en effet, il est très, très fort. On a dans les pays du Sud, en plus de la faim, de la pauvreté, chez les paysans hein, qui produisent, on a en plus des déplacements forcés, on a des expulsions face au processus d'accaparement des terres, puisque effectivement, il y a beaucoup de pays où les multinationales ou les très grands propriétaires terriens expulsent les petits paysans pour faire du soja transgénique ou pour faire de l'élevage extensif de bœuf pour nourrir les pays du Nord. Donc, effectivement, on peut dire que les discriminations, elles sont plus fortes dans le Sud et que cette déclaration, c'est pas par hasard si elle est... Le point de départ est venu des pays du Sud. À l'inverse, il faut aller contre l'idée qu'en France, les paysans, ils ont les mêmes droits que tout le monde. Elle s'applique aussi en France, cette déclaration. Et il y a aussi beaucoup de luttes. Sinon, il n'y aurait pas toutes les luttes de la Confédération paysanne, ne serait-ce que des droits sociaux, par exemple. La retraite des paysans, les paysans, ils n'ont pas les mêmes droits que les autres personnes en France. Donc là, il y a une lutte en ce moment, il y a une loi qui vient d'être passée, il y a une amélioration qui va être faite. Les femmes paysannes, c'était pas prévu dans la loi, je crois que ça va être ajouté. Le congé maternité, c'est pas du tout les mêmes droits que les autres. Enfin, voilà, donc il y a encore beaucoup de chemin à faire, parce que les discriminations de cette population par rapport au reste, ça existe.
Alors maintenant, vous allez pouvoir peut-être nous en dire un peu plus sur les événements qui sont organisés dans cette caravane d'information.
Donc en fait, il y a le programme qui est assez effectivement copieux dans la Drôme. Ça commence le vendredi 10 septembre à 18h. C'est au marché de producteurs de Sainte-Jalle. Ensuite, le samedi 11 à 17h, il y a une conférence historique et littéraire au SLAS, à La Roche-sur-Buis. Ça, c'est sur l'histoire de l'agriculture des baronnies. Le lundi 13 septembre à 18h, c'est de nouveau une agora paysanne au marché de producteurs des Piles, donc à chaque fois avec exposition, stand, débat. Le mardi 14 septembre à 21h, au cinéma de Nyons, il y a la projection du film « Champ de lutte, semeur d'utopie ». C'est un film sur, justement, des paysans de Savoie et Haute-Savoie, en présence de la réalisatrice Mathilde Cyr. Le mercredi 15 à 19h, il y a une soirée débat au café associatif Le Troquet à Villeperdrie sur le thème de l'accès à la terre. Et après on arrive à notre activité le samedi 18. Ça arrive chez nous le samedi 18 septembre, donc à 10, en partenariat avec le magasin Le Silo. Et donc, c'est un, à partir de 10 heures jusqu'à environ 15 heures, ça va être donc une exposition, des animations, stand de producteurs. À partir de midi, il y aura une animation par Rachel Maimouna, qui est une artiste conteuse, qui va nous raconter un des plus vieux mythes fondateurs de l'humanité, qui nous rattache à la Terre, en introduction. Et puis ensuite, on a un débat donc, sur cette déclaration et sur les droits et les discriminations avec des paysans du Diwa qui vont témoigner de leur situation sur les différents problèmes de droits. Tout le monde est invité à participer.
Et puis peut-être un direct de Air Diwa, donc ce n'est pas encore sûr, mais on aimerait bien aussi être présent.
Ensuite, le dimanche 19, la caravane sera à la fête des possibles à Diolfi, donc entre 14h et 19h au parc municipal. Et puis, le 23 septembre à Saillant, donc là c'est proche de chez vous, c'est une soirée documentaire avec la projection du film « Regard sur nos assiettes » en présence du réalisateur Pierre Bécu, au temple de Saillant à 20h30. Et puis pour finir, pour clôturer cette période, eh bien, la caravane sera bien sûr à la fête de la Confédération paysanne, oui. Le grand événement paysan de l'année, le samedi 25 septembre à Divageux, donc où tout le monde est aussi invité. Il y aura, en plus de ce débat sur la déclaration, des stands, des animations, marché de producteurs, de la culture, à manger, à boire, et tout ça.
À voilà. Quelle heure ça commence?
Ça commence à 14h.
Et toute la journée et oui, la soirée?
Et la soirée, voilà.
À Divageux.
À Divageux.
Ok. Ah ben tiens, on va écouter une petite musique, si ça vous va.
Mais oui, ça dépend laquelle.
j'ai choisi de mettre La Lega, qui est une musique peut-être que vous connaissez, d'ouvrières italiennes qui travaillaient dans les rizières. Et qui... elle s'appelle La Lega et elle parle du coup de leur désir de liberté et du fait que pour aller vers la liberté, se rendre plus libre, il faut qu'elles s'unissent. Et elle parle de leur force qu'elles ont en s'unissant.
Bon, mais c'est parfait.
Parfait, ça.
C'est bien que siamo donne. E noi altri lavoratori.
j'ai l'impression que ce qui est assez important dans toute cette question et de comment on organise la lutte pour faire valoir ces droits des paysans, des paysannes, c'est la solidarité. Et comment vous la vivez, cette solidarité-là, dans le Diwa, dans la Drôme, est-ce qu'elle existe à travers la conf ou juste voilà, entre les personnes qui produisent ici sur le territoire?
Eh bien, oui, du coup, la caravane, elle va s'arrêter au Silo. Et le Silo, c'est un magasin qu'on a ouvert il y a un an. Un peu plus d'un an, et qui regroupe 41 fermes du Diwa et un peu de l'extérieur. On va jusqu'à Saint-Jal pour la bière. On a 2-3 fermes qui sont en dehors du Diwa, mais la principale production est diwaise. Et donc on se retrouve, en tout cas, 13 paysans à être associés sur ce projet et 27 ou 28 dépôts-vendeurs. Donc la solidarité, là du coup, voilà, on a un collectif, on prend des décisions à plusieurs. C'est des fois plus long que quand on doit prendre des décisions tout seul, mais enfin des décisions tout seul, on en prend tous les jours 25 sur nos fermes, et que finalement de se confronter un peu aux avis des autres, etc. On s'aperçoit qu'on va plus loin. Et par exemple, cet outil-là, nous permet de gagner un temps fou sur la vente. Hein, c'est un outil de mutualisation pour la vente directe. Et c'est clair que si on gagne du temps sur la vente, ça nous permet de rester plus sur nos fermes et puis de produire et puis d'avoir peut-être un revenu plus décent.
Et puis de ne pas craquer aussi, probablement, psychologiquement aussi.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, chacun a de temps en temps un coup dur. Et puis, c'est bien, la vie est bien faite. On n'a pas les coups durs tous en même temps. Donc, on s'épaule, on peut en discuter, justement, avoir d'autres avis, d'autres possibilités. On mutualise aussi tout un réseau. C'est-à-dire qu'on est tous à peut-être 30 ou 40 kilomètres maximum, mais tout le monde connaît plein de gens autour de soi et on arrive à être plus fort, moi je trouve. Enfin, en tout cas, moi, qui depuis 12 ans travaille toute seule dans mon coin, même si je croise des paysans et qu'on se connaissait tous, et que le fait d'avoir cet outil-là et de se confronter à la vie collective, ça me fait le plus grand bien.
Et ça vous rend probablement plus indépendant et indépendante ?
Oui, on est plus indépendant. Enfin, en tout cas, on ouvre aussi des possibles. Qui ne sont peut-être pas envisageables quand on est tout seul sur sa ferme ou juste deux. Voilà.
Du côté citoyen, la solidarité, en fait, le thème de la solidarité, c'est approfondir les liens entre les producteurs et les consommateurs, mais pas que consommateurs, les citoyens aussi. C'est-à-dire qu'on ouvre un dialogue, comme par exemple dans ce contexte-là, moi je ne suis pas paysanne, et j'écoute beaucoup de paysans dans le contexte de cette caravane et je prends connaissance de leurs conditions de vie, etc. Et ça permet de développer le dialogue sur le thème que on est dans le même territoire et c'est un territoire de vie, c'est un territoire où on est tous ensemble et où il faut qu'on se serre les coudes pour faire face aux différentes contraintes de toutes sortes qui existent. Donc, je pense que c'est important que les citoyens prennent conscience. C'est pas seulement que c'est bien pour l'alimentation de manger bio, etc., mais qu'ils s'intéressent à d'où ça vient la nourriture, dans quelles conditions c'est produit, et qu'ils ne se satisfassent pas de rayons bio au supermarché qui viennent d'Australie je sais pas où, mais qu'ils puissent prendre connaissance, s'intéresser à ce qui se passe ici, à ce qui se passe au niveau des producteurs, et qu'il y ait un dialogue.
Non, mais c'est ça en tout cas qui se passe au silo, parce que quand les gens n'ont pas tel légume ou tel autre, alors qu'on les trouve dans tous les autres supermarchés, eh ben voilà, on leur explique que oui, il y a eu le gel, oui, il y a eu la grêle, oui, on a les courtilières qui passent sous le champ et puis qui bouffent toutes les racines, voilà. Bon, du coup, c'est pour ça que je suis contente aussi d'aller à ce magasin pour vendre, parce qu'on rencontre les gens. Et puis on discute de nous, de nos conditions, mais les gens aussi parlent de qu'est-ce qu'ils vivent. Voilà, on a une relation fraternelle, je dirais, moi.
Oui, et c'est ça, c'est de s'intéresser aussi à vos conditions de vie, à vous, et pas juste aux produits que vont pouvoir consommer, mais à toute une écologie humaine aussi, quoi.
Oui, oui, et puis c'est aussi nous de prendre soin, entre guillemets, des gens qui passent et de aussi s'intéresser à ce qu'ils font. Parce que, ben voilà, c'est une autre façon aussi de enfin, au supermarché, moi je discute pas avec des gens. En fait, je fais mes courses et puis je passe à la caisse où on me dit bonjour, ça fait tant et merci, au revoir, et puis voilà. Alors que là, dans le magasin, ben justement, il y a toujours au moins un producteur, puisqu'on a embauché deux personnes là cet été. Mais on tient à ce qu'il y ait toujours ce lien et qu'il y ait un producteur présent, au moins un, présent pendant les temps de vente.
Donc le fait de développer un magasin comme celui-là, c'est un moyen de lutte. Voilà, pour un peu terminer cette interview et savoir comment on peut donc organiser cette lutte-là. Vous allez vous axer sur le fait d'essayer d'informer les gens sur cette déclaration et sur l'importance qu'elle a. Et après, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe ?
Eh bien, en tout cas, moi, je voudrais quand même revenir sur la journée du 18, parce qu'il y a la caravane, mais il ne se passe pas que la caravane au silo. Quand on nous a demandé si ça nous intéressait, évidemment que ça nous intéressait, puisqu'on se sent pleinement concernés. Et on s'est dit aussi que comme ça faisait un an, et puis que on a du mal à faire la fête en ce moment, hein, parce qu'on a trop de contraintes. Donc on s'est dit que c'était une occasion pour que les dépôts vendeurs, que les gens ne voient pas spécialement dans le magasin, et la possibilité de rencontrer aussi les consommateurs. Donc on organise un petit marché à partir de 9h, puisque le magasin est ouvert de 9 à 13. Et donc on a invité certains dépôts vendeurs à venir. Donc il y aura un petit marché de 9h à 15h autour de la caravane. Et puis on a invité un collectif qui a écrit un bouquin sur « Notre pain est politique ». Donc c'est un réseau de paysans qui parlent du blé. Alors je vous ferai juste un petit résumé du bouquin. Des blés au pain, en passant par les farines, les trois parties de ce livre retracent la réalité de la production industrielle actuelle et ses conséquences désastreuses au niveau social, économique, environnemental et sanitaire. Face à cela, il montre nos expériences autour des blés, des machines et du pain paysan comme autant de tentatives pour sortir de ce modèle. Car si la culture des variétés paysannes ne s'accompagne pas de l'ambition de mettre un terme à l'industrialisation de l'agriculture, elle n'est qu'un vain folklore. Voilà, donc certains du collectif viennent présenter le livre et puis on fera un petit débat. Ça, c'est de 10h à 11h30. Ensuite, la caravane proposera aussi des tartines à emporter. Et puis, je crois que c'est tout. Hein. Donc, oui. Ce sera déjà bien, bien dense comme journée.
C'est déjà une bonne journée. Oui.
Donc, si on peut dire un petit peu les perspectives par la suite. Cette caravane, elle circule dans plusieurs régions. Elle va partir en Bretagne au mois d'octobre, en Isère, en région parisienne. Et puis, on continue après, pas forcément sous une forme de caravane, mais on continue ce travail pour défendre cette déclaration et ses droits en France. Et donc, en 2022, l'objectif, c'est de construire des séminaires avec les institutions, soit par département, soit par région, pour interpeller les élus, les Comcom, les élus municipaux, les élus départementaux, les institutions diverses et variées, le SCOT, etc., pour leur dire, eh bien, voilà, vous, nous, dans votre région, qu'est-ce que vous comptez faire ? Donc, avec des intervenants qui pourraient faire des conférences, enfin, des débats, etc., pour faire monter la question dans les institutions.
Je peux dire mon petit slogan, là ou...
Ah oui, le slogan.
Ok. Donc, si vous voulez pédaler dans le militantisme, rejoignez un concentré de paysans au silo le 18 septembre à partir de 9h.
Merci. Je vous remercie d'être venu participer à cette interview.
Nous aussi, on est très contents d'être venus ce matin.
Merci à vous.
Peut-être, oui, que vous pouvez nous donner un contact, en tout cas un endroit où on peut trouver les informations.
Alors nous, on a un Facebook, la Caravane des droits paysans. Tous les programmes sont inscrits.
Voilà, pour rester informé, s'informer et puis pouvoir venir aux événements. Bonne fin de journée à tout le monde.
Merci.
Merci beaucoup.
Mama Julia, mamita por Dios, y arroé, y arroé.